contretemps. Une émission de Canal Academy, Virginia Crespo et ses invités.
Bonjour, vous êtes à l'écoute de Temps contre temps. Temps contre temps, une émission de Canal Academy basée sur deux idées forces, échange et transmission. Devant les micros de Temps contre temps, un étudiant ou une étudiante engagée avec conviction dans un parcours d'études déterminant par rapport à ses objectifs professionnels, personnels, cet étudiant ou cette étudiante sera en échange avec un académicien, une académicienne riche d'une vie, d'une expérience, d'un savoir acquis. Aujourd'hui, Temps contre temps a le plaisir de recevoir l'académicienne Marianne Bastide-Bruguière. Bonjour, bonjour madame.
Bonjour.
Normalienne, agrégée d'histoire et de géographie, doctoresse lettres. Marianne Bastide-Bruguière a étudié le chinois à l'École nationale des langues orientales vivantes. Vous avez enseigné de 64 à 65 à l'Université de Pékin. Vous avez entrepris là-bas la rédaction d'une thèse sur la réforme de l'enseignement et sur l'instauration d'un système scolaire moderne à la fin de l'Empire et au début de la République. De retour en France, vous entrez au CNRS et vous allez y occuper successivement différents postes de responsabilité dans les domaines de la recherche. En 81, vous y êtes directeur de recherche. Parlez-nous donc de vos fonctions au CNRS, Marianne Bastide-Bruguière.
Elle consiste d'abord à faire de la recherche. Et d'autre part, parallèlement à la recherche que j'ai conduite depuis mon entrée en 1966 au CNRS, j'ai toujours enseigné à l'université gratuitement, je dois dire. J'ai enseigné aussi bien en Institut d'études politiques à Strasbourg pendant 8 ans. J'ai fait la navette pour Strasbourg et j'enseignais un cours en seconde année sur l'histoire de la Chine contemporaine. J'ai enseigné ensuite, parce que j'avais de jeunes enfants et ça devenait plus compliqué d'aller à Strasbourg toutes les semaines, pour l'Université de Paris 7 et aussi pour l'École des hautes études en sciences sociales. Et je continue toujours, j'ai un cours de doctorat, un cours qui correspond au troisième cycle pour le DEA et le doctorat, qui vaut à la fois pour les étudiants de l'UFR de langue et civilisation orientale de l'Université de Paris 7 et pour des étudiants qui s'intéressent à la Chine, à l'École des hautes études en sciences sociales, dans une formation doctorale qui concerne l'histoire.
La transmission occupe donc une grande partie de votre vie.
Mais je pense que c'est très important. Presque, je dirais, de vérifier ce qu'on fait dans le domaine de la recherche en l'éprouvant auprès des étudiants. D'abord parce que de temps en temps, ils ont l'esprit critique ou simplement ils ont un esprit simple, ingénu, et ils découvrent des questions très simples auxquelles les chercheurs ne pensaient pas. Donc, c'est très important. Et d'autre part, parce que ce qu'on essaie de trouver, ou le nouveau savoir qu'on essaie d'élaborer, bien, on souhaite qu'il soit diffusé. Et que les jeunes étudiants ne vivent pas sur un savoir périmé, au contraire, profitent tout de suite des découvertes de la science.
Alors c'est pourquoi nous avons le plaisir de vous présenter un échange avec l'étudiant que je vais vous présenter dans un instant. Mais cette transmission aussi est passée par différents ouvrages. Vous avez collaboré ou écrit plusieurs ouvrages sur la Chine, son histoire, ce qui a donné la Chine 1 à partir des guerres de l'opium, et la Chine 2 qui, elle, va jusqu'en 1921.
Oui.
Vous avez aussi écrit des ouvrages sur la réforme de l'enseignement en Chine et l'évolution de la société chinoise. Alors, première question, pourquoi cet engouement pour cette région du monde, la Chine? Qu'est-ce qui vous y a conduite et à partir de quand?
Oh, c'est une idée que j'ai eue vraiment très jeune, à 10 ans à peu près, 10-11 ans. Ma mère était professeure de droit international et c'était donc vers 1951-52. Elle avait un étudiant chinois qui faisait sa thèse d'ailleurs sur la guerre de Corée. Cet étudiant chinois était marié et avait à l'époque un petit garçon qui avait 4 ou 5 ans. Et comme il se fait traditionnellement dans les rapports entre professeurs et étudiants en Chine, au moment du Nouvel An chinois, c'est le calendrier lunaire, ça ne correspond pas à notre 1er janvier, il invitait son professeur et sa famille à déjeuner le dimanche. Et c'est dans ces conditions que j'ai été déjeuner avec ma mère chez cet étudiant chinois et qui m'a montré comment il enseignait à lire et à écrire à son fils. Le petit garçon fréquentait l'école française, mais son père et sa mère d'ailleurs jugeaient indispensable qu'il apprenne également les caractères chinois parce qu'il n'allait pas rester éternellement en France et puis que ça faisait partie de sa culture et qu'il n'était pas question qu'un enfant de lettré ne connaisse pas les caractères. Et j'ai trouvé cette écriture chinoise tellement extraordinaire, tellement intelligente et subtile. Et puis l'étudiant, évidemment, a parlé de la Chine un petit peu, il dit un certain nombre de choses. que j'ai pris la résolution que plus tard, j'apprendrai le chinois et je m'intéresserai à la Chine. Et cette résolution, j'ai mis un certain temps à la réaliser, parce que, heureusement ou malheureusement, en sortant du bachot, mes professeurs m'ont dit « Oh, il faut que vous fassiez classe préparatoire, je suis allée en Hippocagne, en Cagne, parce qu'on m'a dit « Mais c'est trop bête, vous pouvez peut-être réussir le concours. » Et en étant dans les classes préparatoires, à cette époque-là, on n'enseignait pas du tout le chinois au lycée. Aujourd'hui, c'est différent. Mais à ce moment-là, non. Et le seul endroit où on pouvait apprendre le chinois, c'était l'école des langues orientales. Mais c'était au moment des heures de cours de préparation. Donc, je n'ai pu commencer à apprendre le chinois qu'une fois que je suis entrée à l'école normale. Et encore secrètement, parce que j'étais dans l'école normale des filles. À cette époque-là, les filles et les garçons n'étaient pas éduqués ensemble. Et chez les filles, on m'avait dit, quand j'ai dit, ben, je veux faire de l'histoire, bien sûr, parce que c'était ma discipline, la discipline qui vraiment m'intéressait, puis je veux faire du chinois, on m'a dit, mais ma petite, à quoi ça va vous servir? Et donc, ça vous distrait de vos études. Et alors, secrètement, je partais le matin. Heureusement, les cours chinois étaient très tôt, étaient à 8h du matin. Personne ne voyait que j'étais partie. Et j'allais suivre les cours de chinois en langue zo. Voilà, comment ça a commencé. Et vraiment, je ne le regrette pas, parce que j'ai eu une chance extraordinaire, si je puis dire, peut-être les Chinois aussi. C'est qu'au fur et à mesure que je me suis intéressée aux Chinois, la Chine a pris une place de plus en plus considérable dans le monde. Quand j'ai commencé à apprendre le chinois, aux langues orientales, on était en première année, on commençait à 20. Puis au bout d'un trimestre, on n'était plus que 15. Et à la fin de l'année, on était 10 encore. Et donc, c'était vraiment un très, très petit groupe. Tandis que maintenant, il y a des milliers de jeunes Français qui apprennent le chinois. Et surtout, la Chine a complètement changé. Et donc, si vous voulez, ce que j'ai appris, ce que j'ai emmagasiné, m'a aidé aussi à voir émerger et à comprendre, parce que je me suis intéressée pas simplement à la Chine contemporaine, mais à la Chine plus ancienne, ce qui se passait sous mes yeux. Et c'est vraiment extraordinaire de voir son sujet de recherche grossir à la dimension d'un univers au fur et à mesure du trajet d'études.
Alors, nous allons demander à l'étudiant qui est avec nous aujourd'hui s'il a appris le chinois. Alors, avec nous et en dialogue avec vous, Marianne Bastide-Bruguière, Jean-François Brunet.
Bonjour.
Bonjour. Alors, votre parcours d'étudiant, Jean-François Brunet, en quelques mots, vous avez suivi les classes préparatoires HEC Voies Scientifiques, 2000-2001 Sciences Po Paris, 2001-2002 ce sont les États-Unis avec l'université de Pennsylvanie, et puis une école, la Wharton Business School.
Voilà, c'est, elle fait partie de l'University of Pennsylvania.
Et 2002-2003, Sciences Po à Paris, donc quatrième année. Et 2004 ?
Je suis actuellement toujours à Sciences Po, en stage, en relation avec la Chine, puisque je suis analyste sur les entreprises asiatiques et sur la Chine particulièrement.
Alors, la même question, pourquoi vous êtes-vous intéressé à cette région du monde, à la Chine ? Expliquez-nous pourquoi et est-ce que vous y avez vécu ?
Alors en fait, c'est à peu près au même âge que Mme Bastide-Bruguière, à l'âge de 10 ans, puisque par la force des choses, mon père a été expatrié en Chine pour une durée de 5 ans, donc entre l'âge de 10 et 15 ans. Mon père a été expatrié à Dayabek, qui en fait, la France avait vendu une centrale nucléaire à la Chine, donc ça se situe juste à côté de Hong Kong, à 2 heures de route à peu près. Donc j'ai habité là-bas durant 5 ans, et depuis, c'est vrai que ça m'a un petit peu suivi, puisque j'ai là-bas appris des bases de chinois, puis j'ai continué en rentrant. Et malgré une pause durant les classes préparatoires, puisqu'il n'y avait pas le temps de faire du chinois en classe préparatoire, face au même problème. Et depuis, ça me suit, puisque mon stage est orienté vers la région Asie et la Chine en particulier.
Alors, je crois que vous souhaitez cette mise en relation avec Marianne Bastide-Bruguière sur les relations franco-chinoises au XXe siècle. Alors, il y a quelques chiffres à préciser avant de se lancer dans cette discussion. Ce sont des chiffres, Marianne Bastide-Bruguière, que vous citez, des chiffres du rapport du consul à Shanghai le 10 août 1895, des chiffres qui viennent de statistiques de la douane.
Oui.
Alors, vous nous rappelez qu'à la fin de 1894, on recense dans toute la Chine 807 Français résidents et 32 maisons de commerce françaises.
Oui.
En France, on ne trouve qu'une quarantaine de Chinois et un magasin de produits chinois, un seul. Quant aux liens commerciaux, la France est de très loin le premier client de la Chine. En 1892, la valeur de ses importations de Chine s'élève à 135 millions de francs sur un total de 416 millions de francs d'exportations chinoises. En revanche, les exportations françaises en Chine, dites-vous, n'atteignent que 3 millions de francs sur un total d'importations chinoises de 760 millions de francs. Bon, que de chiffres. Vous dites aussi que le domaine intellectuel, le courant le plus nourri, va aussi de la Chine vers la France. C'est toujours dans ce sens-là que ça va, et
oui,
pas l'inverse. Alors les chiffres,
oui,
ont bien changé. Puis il y a eu la guerre franco-chinoise.
La guerre franco-chinoise
avant,
est avant.
Juste avant.
Est avant. Et la guerre franco-chinoise, à mon avis, elle a plutôt aidé les échanges. Enfin, dans la période du 19e siècle, en fait, force les gens à être les uns avec les uns à côté des autres. Et c'est elle qui a obligé aux échanges et qui a forcé les échanges. Vous n'êtes pas de cet avis ? Il a de la chance, il a profité des relations de paix. Mais il faut dire aussi, sur ces relations de paix, on a beaucoup moins de témoignages que sur les relations de guerre. Et souvent, il peut y avoir eu des relations assez nourries qu'on ignore totalement parce qu'elles n'ont pas laissé de litige. Et donc, il n'y a aucune trace. Mais vous, qu'en pensez-vous ?
Mais est-ce que de même, la guerre entre la France en Indochine a eu des conséquences sur les relations franco-chinoises ?
La conquête de l'Indochine, à mon avis, a joué un rôle considérable pour pousser les Français vers l'Extrême-Orient, et pas simplement l'élite française, mais des catégories moyennes. Parce que en Indochine, comme colon en Indochine, ou simplement dans l'administration indochinoise, comme policier, comme postier, comme gendarme, il y a eu beaucoup de gens qui sortaient de familles tout à fait modestes en France et qui allaient aux colonies parce qu'ils y avaient une vie plus agréable. Et donc, là, ils revenaient quand même de temps en temps en France où la famille allait. Et donc, ça a créé une connaissance, et parce qu'en général, les gens qui étaient là-bas étaient assez heureux d'être là-bas. Ils étaient plutôt contents. Donc, ça a contribué à répandre la Chine, la connaissance de l'Asie, l'intérêt pour l'Asie dans la population française. Mais cet intérêt pour l'Asie n'a quand même jamais atteint ce qu'a été l'intérêt pour l'Afrique. C'est pas la même chose.
Et sinon, comment expliquez-vous, puisque je vois des pays comme l'Allemagne, par exemple, n'ont pas eu ce genre de relation avec l'Asie, puis n'ont pas eu de colonies, mais qu'au fur et à mesure des années, ils aient des relations économiques beaucoup plus intenses avec eux, alors que les échanges culturels entre la France, et même diplomatiques entre la France et la Chine, sont beaucoup plus intenses. Et pourquoi les relations économiques n'ont-elles pas suivi ?
Eh bien, parce que quand les Français ont fait des affaires en Chine, ils n'ont pas toujours donné satisfaction aux Chinois. Et nous traînons une réputation de gens pas sérieux. Il y a des stéréotypes, comme vous savez, dans les pays. Bon. Les Chinois reconnaissent que les Français savent construire des ponts et construire des voies ferrées. Parce que nous avons construit la voie ferrée qui menait de l'Indochine au sud de la Chine à Kunming, au Yunnan. Et le chemin de fer du Yunnan, qui a été achevé vers 1906-07, est sur des centaines de kilomètres, une suite d'ouvrages d'art absolument extraordinaires, parce que c'est dans des montagnes très très escarpées, et on a fait creuser des tunnels, construit des ponts, etc. Donc nous savons construire des ponts.
Savoir-faire des ingénieurs français.
Nous savons construire des ponts. Mais très souvent, nous avons procuré du matériel qui avait l'air bien, mais ensuite, quand il s'agissait de la maintenance, des pièces de la réparation, nous n'étions pas là. Donc ce sont des choses qui se savent, et nous traînons cette réputation, même s'il y a des boîtes françaises qui sont parfaitement sérieuses. Actuellement, par exemple, à Wuhan, nous fabriquons des automobiles. Et là, ça va très bien, parce qu'on a fait très attention à la maintenance, au suivi, au service après-vente. Oui. Et je peux dire que les chauffeurs de taxi de Wuhan qui roulent dans des voitures françaises disent que c'est beaucoup mieux
que
les voitures japonaises qu'ils avaient avant, qui étaient moins chères peut-être, mais moins bien. Et ils sont satisfaits. Ils disent que c'est pas le haut de gamme. S'ils pouvaient avoir plus d'argent, ils achèteraient des voitures peut-être américaines ou allemandes. Oui, allemandes probablement. Mais enfin, que c'est bien. Donc là, ça va mieux. Mais nous traînons cette réputation. Tandis que les Allemands ont toujours eu la réputation d'être extrêmement sérieux. Et d'autre part, ils ont créé des universités techniques à Shanghai. Il y a une université qui s'appelle Tongji, qui ont été gérées de façon très intelligente et qui ont formé des techniciens chinois, des ingénieurs chinois. Et la coopération technique avec l'Allemagne a très bien continué. Quand, dans les années 80, les usines allemandes aussi ont instauré des systèmes de formation pour la main-d'œuvre chinoise, pour les contremaîtres chinois, l'encadrement technique, parce que ça c'est essentiel pour faire marcher une usine, les Allemands ont été très habiles, avec une grande compétence, un grand savoir-faire. Donc voilà. D'accord. C'est pour ça que nous avons de la peine, même s'il y a des entreprises françaises qui travaillent bien. Le nombre de Chinois qui viennent étudier en France a augmenté de façon considérable dans les 5 dernières années. Bon, il y a eu des fluctuations auparavant. Il y a eu des époques à la fin des années 80 où il y en avait beaucoup, plusieurs milliers. Et puis ensuite, on a eu le flot d'étudiants qui se sont réfugiés en France après les événements de 89. Et puis ensuite, ça s'est tari parce que les étudiants ne pouvaient plus sortir de Chine. Enfin, il y a eu une restriction des sorties. Puis de nouveau, la vanne est ouverte. Et pratiquement, c'est très très facile pour un étudiant chinois d'obtenir un passeport pour sortir. Alors, ensuite, ce qui lui est plus difficile, c'est d'obtenir un visa. Mais pour des études, on leur donne. Et comme on sait, notamment maintenant, dans les provinces de l'intérieur, que les études en France ne sont pas chères, enfin tout est relatif, qu'il n'y a pas de droit d'inscription, les droits d'inscription sont ridicules par rapport à ce qu'ils sont en Amérique ou en Angleterre, il y a des étudiants qui viennent, mais qui viennent un peu à la découverte comme ça, pas avec un but d'études bien précis. Et c'est assez compliqué, je pense, pour les universités. D'autre part, il y a des gens qui viennent sans motivation, simplement pour se promener.
C'est vraiment la différence avec les États-Unis, parce que ayant moi-même étudié aux États-Unis, les étudiants chinois sont extrêmement nombreux et on les voit extrêmement motivés. J'imagine que le gouvernement doit leur financer leurs études et d'avoir une obligation de résultat.
Non, aux États-Unis, en France aussi d'ailleurs, c'est la même chose. Une partie des étudiants ont leurs études financées, soit par le gouvernement, soit par le gouvernement central, le gouvernement local. Bon, et ceux-là sont motivés, ils ont une obligation de résultat, et c'est très dur, et vraiment, ils travaillent énormément. Puis vous avez un autre groupe d'étudiants qui vient à ses frais. Alors, certains en empruntant, où la famille leur paye les séjours en Europe, il y a des officines, enfin des compagnies véritablement, qui vous vendent sur Internet des études en France, des compagnies chinoises, qui sont quelquefois en mèche, avec certains bureaux dans les universités françaises. Et je dois dire, j'en ai vu des résultats qui n'étaient pas toujours très très heureux, parce que les jeunes Chinois avaient payé, enfin les familles avaient payé jusqu'à 80 000 francs, et ils devaient arriver en France encore payer le logement.
Je crois que Jean-François Brunet, vous aviez une question aussi par rapport à la diplomatie française aujourd'hui et de ses relations franco-chinoises.
Ben, c'est un peu lié avec l'enseignement et savoir ce que l'on pourrait améliorer, parce que c'est l'année de la Chine actuellement en France. On voit que les échanges culturels sont assez intenses et beaucoup d'expositions actuellement à Paris. Quelles sont au niveau diplomatique les avancées que la France pourrait faire afin d'intensifier ces échanges?
Je crois que tous ces problèmes sont parfaitement clairs pour notre personnel diplomatique et le personnel de nos services culturels. J'étais au mois de septembre-octobre en Chine, où j'ai enseigné dans une université à Wuhan, dans le centre de la Chine, et puis après j'ai été à Tianjin, à Pékin, etc. Et j'ai vu un certain nombre des responsables de nos services culturels, qui ils sont très très bien au courant, et ils font tout ce qu'ils peuvent pour essayer d'améliorer les choses. Mais ils sont débordés par le flot d'étudiants chinois. Le malheureux consul à Wuhan, il avait des caisses entières de demandes de visa qu'il examinait. Ben, si, justement, ils veulent mettre un filtre de la langue. Et on a développé des alliances culturelles, des alliances françaises en Chine pour développer l'enseignement du français en Chine. Un enseignement assez rapide et assez utile, assez utilitaire du français pour que les étudiants chinois qui arrivent ici aient quand même une base. Parce qu'il y en a qui arrivent et qui ne savent pas parler français. Alors, ils savent l'anglais, mais ça ne sert pas à grand-chose de savoir l'anglais en France. Quand on veut faire des études, même pour la vie pratique. Donc, on essaie de mettre sur pied une sorte de filtre, d'encourager les étudiants chinois en Chine à apprendre d'abord le français, et à vérifier, avant de leur donner un visa, qu'ils savent le français, leur faire passer. On a institué des tests, des examens. Mais c'est compliqué parce qu'on est devant un fleuve de gens qui se déversent. Et c'est la même chose pour nos voisins européens. Ils ont aussi beaucoup, beaucoup de gens qui viennent.
Jean-François Brunet, parlez-nous de la journée consacrée à la Chine par Sciences Po.
Alors en fait, le bureau des élèves de Sciences Po va, dans le cadre de l'année de la Chine, va organiser une journée de la Chine qui aura lieu le 11 mars 2004. Le thème sera donc la Chine face à la mondialisation, la culture chinoise face à la mondialisation. Il y aura des invités prestigieux qui viennent des Langzhou. Vous connaissez peut-être Françoise Mangin et Monsieur François Godman.
François
Godman,
oui.
Qui viendront lors d'une conférence. Également, Sciences Po sera également décoré à des expositions culturelles sur la Chine dans Sciences Po à cette occasion.
Très bien, c'est une très bonne idée.
Pour terminer, Marianne Bassit-Bruguier, pourquoi au cours de nos journaux télévisés, trop peu de nouvelles de l'AFP nous parviennent de Chine?
Écoutez, nos journaux télévisés sont hexagonaux et de plus en plus. Je dois dire que c'est effrayant. Hein ? Heureusement, grâce à l'Internet, beaucoup de gens peuvent avoir des nouvelles tout à fait en dehors des médias, de la télévision. Personnellement, moi je regarde le soir la télévision, les informations de la télévision chinoise. Et je dois dire que les perspectives sont renversées. Il y a 30 ans, la télévision chinoise donnait uniquement des nouvelles hexagonales, parce que la Chine n'est pas un hexagone, mais enfin des nouvelles chinoises. On regardait son nombril, surtout. Aujourd'hui, elle couvre très bien la scène internationale. C'est très intéressant. Les informations de la télévision chinoise sur l'Irak, par exemple, c'est extrêmement intéressant. Parce que leurs journalistes voient toutes sortes de choses que les journalistes américains ou l'AFP ne voient pas. Et puis sur d'autres théâtres d'opérations, c'est aussi très intéressant. Donc c'est beaucoup plus international que nous. Nous, je crois que les journalistes de télévision, peut-être pas les journalistes eux-mêmes, mais ceux qui les contrôlent, s'imaginent que les Français sont idiots et ne s'intéressent qu'à leur nombril. Mais c'est pas vrai du tout. Ils devraient regarder plus loin.
Alors vous qui avez écouté ces informations venues de Chine, quelle était l'opinion de la Chine par rapport à la guerre contre l'Irak ?
Elle était prudente, parce que les Chinois avaient de gros intérêts en Irak. Ils avaient énormément construit pour Saddam Hussein. Donc l'Irak a des grosses dettes vis-à-vis d'eux. Et ils sont plus riches qu'autrefois, mais enfin, un sou est un sou. Hein. Donc ils n'avaient pas envie de tout perdre. D'autre part, ils ne voulaient pas affronter tout de suite les États-Unis. Donc ils ont pris une position très douce, calme, en disant un certain nombre de choses de temps en temps, mais sans faire beaucoup de publicité. Et ce que je trouvais extraordinaire, c'est que les journalistes étrangers, ils ont dû être payés, parce que normalement, ils auraient dû aller titiller les Chinois en leur demandant, mais qu'est-ce que vous pensez ? Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est scandaleux que les Américains attaquent les Irakiens, ou au contraire, que c'est une bénédiction qu'ils attaquent les Irakiens ? Enfin, je ne sais pas, mais il fallait faire réagir. Il n'y a rien eu de tel, non seulement sur les télévisions françaises, mais même sur les télévisions européennes ou américaines. Hein, on a laissé les Chinois parfaitement tranquilles, ils ont dit ce qu'ils ont voulu et personne n'a essayé d'en savoir plus. Ce qui montre qu'ils deviennent vraiment extrêmement forts au point de vue diplomatique. Parce que, regardez, nous avons un certain nombre de chefs d'État qui sont harcelés par les journalistes en disant qu'est-ce que vous en pensez, eux, non.
Eh bien, en tout cas, Canal Académie aura tenté de savoir ce qu'il en était. Merci Marianne Bastide-Bruguière, merci Jean-François Brunet d'avoir participé à Temps contre Temps sur Canal Académie.